BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Toutes nos études, nos statistiques de la semaine à ne pas louper. N'oubliez pas non plus tous nos comptes sur les réseaux sociaux, la librairie de l'écho sur X, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube pour retrouver toutes les références précises des livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de confrontation entre grandes puissances, entre blocs. Mais où nous mènent ces confrontations? À quel nouvel ordre mondial les plus puissants imposeront-ils leur vision du monde? Qui seront les vrais architectes des nouveaux équilibres, les armées, les diplomates, ou pourquoi pas les peuples? Ces derniers pourront-ils prendre leur revanche dans les pays qui les oppressent? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Bertrand, vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Vous êtes un des plus grands penseurs, ça c'est moi qui le dis, à titre personnel.
Oui, c'est pas moi.
Mais je le pense profondément. Un des plus grands penseurs de la géopolitique, un des plus grands, théoriciens de la géopolitique. Et vous publiez Par-delà la puissance et la guerre chez Odile Jacob. Louis Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Louis, vous êtes consultant en organisation. Vous avez été otage 2 ans de la République islamique d'Iran et vous publiez La Révolution intérieure aux éditions Équateur. On ira finalement plonger au cœur de ces mouvements sociaux dont parle Bertrand dans son livre. Bertrand, avec qui on commence? Le point de départ de votre livre, Bertrand Badie, c'est ce constat terrible. Depuis 1945, la puissance détruit, terrorise, coûte, mais ne reconstruit plus. Rien n'est sorti, finalement, de toutes ces démonstrations de puissance, des États-Unis au Vietnam, de la Russie, de l'Union soviétique en Afghanistan, ni en Ukraine, ni d'Israël à Gaza. Rien.
Elle détruit de plus en plus. Elle est de plus en plus meurtrière, elle est de plus en plus effrayante, et elle ne produit pas, elle ne construit pas. Faut quand même pas oublier que dans notre histoire, là je parle du monde européen devenu euro-américain à la fin du 19e siècle, la puissance a réglé la circulation, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elle a dessiné la carte de l'Europe, elle a organisé ce que l'on appelait très longtemps l'équilibre de puissance, c'est-à-dire un jeu international stabilisé.
Et après la Première Guerre mondiale, pareil.
Absolument. Et je dirais jusqu'à 1945. C'est 1945 est une date, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est en même temps la fin du second conflit mondial, terriblement meurtrier, et la naissance des relations internationales comme discipline académique. Et donc, notre petite science des relations internationales est née à un moment où la puissance était à son zénith. Elle avait permis de gagner la guerre et elle était même vertueuse puisqu'elle avait écrasé le monstre nazi. Jusque-là, donc, il était normal qu'en anglais, relations internationales aient pour synonyme power politics, c'est-à-dire la politique de puissance. Mais depuis 1945, les États-Unis, la superpuissance incontestée, ont perdu pratiquement toutes les guerres qu'ils ont mené, Vietnam, Afghanistan, Irak, Somalie, on pourrait continuer. L'URSS, vous l'avez dit vous-même, même chose. Et surtout, l'élément enclencheur qu'on a tendance à oublier, c'est aussitôt la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de décolonisation, où là, la puissance du côté de ceux qui se soulevaient était quasiment nulle, mais a défait la capacité des puissances coloniales. C'est là que la nouvelle histoire a commencé.
Alors, Bertrand Badie, si cette équation traditionnelle, puissance égale force égale ordre, ne fonctionne plus, c'est parce que l'humain, que ce soit en amont ou en aval de chaque crise d'ailleurs, s'approprie désormais les relations internationales.
Alors, l'appropriation, sociale des relations internationales, c'est un élément extrêmement important qu'on n'ose pas regarder en face, pour des raisons d'ailleurs complexes sur lesquelles on peut peut-être revenir. Mais vous avez tout à fait raison, et j'apprécie beaucoup le fait que vous parliez de l'amont et de l'aval. C'est-à-dire que l'humain, il est en même temps au début du processus et au bout du processus. C'est-à-dire que si vous regardez les grands enjeux internationaux, vous verrez que ce n'est plus tellement le rapport de force, le rapport de puissance. Évidemment, il va ripolliner tout cela. Mais quand on y regarde de très près, les multiples conflits en Afrique, ils trouvent leur source dans l'insécurité humaine, dans l'insécurité climatique, dans l'insécurité alimentaire, dans l'insécurité sanitaire, dans l'insécurité économique, dans l'insécurité institutionnelle, la faiblesse des institutions. Et donc, tout ça fait que, au début des tragédies que nous vivons, il y a toujours de l'humain. Mais au bout des tragédies, on s'aperçoit que de plus en plus, l'humain réapparaît comme pour reconfigurer un conflit et lui donner un sens nouveau. Regardez aujourd'hui, dans cette tension entre l'Iran et les États-Unis, tout le monde est suspendu au grand mystère. C'est pour ça que je parle d'ailleurs de mystérieuse énergie sociale. Le peuple iranien va-t-il se mobiliser avec le même courage qui a été celui dont il a fait preuve en décembre et en janvier? On est suspendu à une mobilisation sociale. Alors, et regardez le printemps arabe, c'est la même chose.
Alors, pour bien reprendre, parce que sur l'enchaînement finalement des événements et des rapports de force, parce qu'il faut vous suivre, vous dites en aval, en amont, au tout début, il y a dans cette nouvelle période finalement de confrontation des désirs émanant du peuple. Et vous dites par exemple, le Trumpisme a précédé Donald Trump comme les aspirations de la grande Russie de Poutine ont précédé Poutine lui-même.
Absolument. Et ça, c'est très important parce que la révolte des peuples, c'est pas seulement la révolte des dominés, c'est pas seulement les révoltes du Sud, évidemment, auxquelles on pense spontanément. Mais, par exemple, à travers le Trumpisme, on a toujours laissé de côté un phénomène extraordinairement important qui est l'extraordinaire pathologie de la société états-unienne au tournant du siècle. Vous connaissez ce grand économiste Branko Milanovic qui avait expliqué comment la très mauvaise surprise du tournant du siècle, ça a été que la mondialisation, loin de profiter aux classes moyennes américaines, les avait appauvries au moins relativement.
La fameuse courbe de l'éléphant.
Absolument.
La mondialisation a profité aux classes moyennes.
Absolument.
On l'avait reçu dans la librairie de l'Écho.
Eh bien, bravo, parce que c'est un ouvrage extrêmement important, mais qui montre que, effectivement, de ce temps de la mondialisation heureuse, de la fin de l'histoire, du ruissellement, on est passé tout d'un coup au temps de la frustration et de la peur. La peur de la mondialisation, qui est une peur sociale qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Europe, qui se traduit par l'identitarisme, par le souverainisme, par le protectionnisme, voire par le suprémacisme. Et tout ça, ça crée une demande sociale de puissance. Et Poutine, son cri de guerre, c'est « Make Russia Great Again ». Et Trump a gagné les élections en disant « Make America Great Again ».
Sauf que, si je vous suis bien, le poison, quelque part, génère sa propre antidote. Et que à l'autre bout, donc là, plus en aval, finalement, de ces confrontations qui mettent en scène les armées, les diplomates, eh ben, il y a finalement toute une énergie sociale. Mais alors, quelle forme ça prend? C'est quoi? C'est les médias, c'est les populations, c'est les étudiants, c'est les ONG? Comment ça se passe dans ces pays où finalement ce besoin de liberté finalement s'exprime?
Alors, d'abord, on sait ce que ce n'est pas. C'est toujours comme ça qu'on progresse en science, n'est-ce pas? Par d'abord dire ce que ce n'est pas pour ensuite essayer de comprendre ce que c'est. Ce n'est pas un mouvement social, c'est pas une armée. C'est pas une discipline de fer, comme disait Lénine en son temps quand il pensait la révolution. Une énergie sociale, c'est quelque chose que personne ne peut maîtriser, qui est le résultat d'un formidable phénomène d'agrégation, totalement aléatoire, imprévisible. Qui avait prévu le printemps arabe? qui a pourtant été un formidable mouvement sismique dans l'ensemble du monde arabe. Qui avait prévu ces différentes phases d'insurrection en Iran? On savait que la société civile brûlait, mais personne n'était capable. Moi, j'ai écrit un livre en août 2022, je n'ai même pas fait référence au mouvement social en Iran parce que celui-ci intervenait en automne 22, un peu plus tard. Donc, on sait que, justement, c'est une énergie que nul ne peut capter. En revanche, on sait maintenant, d'un point de vue positif, que c'est un paramètre que les stratèges sont obligés d'intégrer comme source de modestie. C'est-à-dire autrefois, le stratège, en relations internationales, travaillait par anticipation. C'est-à-dire il devinait ce qu'était l'intention de l'adversaire et à partir de ça, il construisait une ligne de défense et d'offensive. Là, on sait que le mouvement social devient un paramètre indispensable à la connaissance et à l'action politique, oui. Mais nul ne sait comment le domestiquer.
Oui, mais alors justement, quand même, Bertrand Badie, quand les bombes sur la Palestine, quand les chars russes frappaient du Z en Ukraine, quand Barkhane au Sahel, finalement, ne font que la démonstration de leur impuissance et ne font qu'alimenter, finalement, du ressentiment... Vous le dites très bien, vous le dites, l'escalade de l'impuissance ne débouche toujours que sur plus d'impuissance. Donc, où est-ce qu'on va? Je dois quand même vous le demander, c'est vous l'expert. Est-ce qu'on va dans un monde de plus en plus imprévisible? Qu'est-ce que ça dit des rapports de force de demain?
Alors, il y a, je dirais, deux lueurs d'espoir. Il y a d'abord une lueur éthique. Et cette lueur éthique, c'est la responsabilité sociale, c'est-à-dire ces mouvements sociaux qui prennent conscience de leurs forces et qui savent se discipliner et s'organiser. Vous avez quand même des exemples de cette nature. Ce qui s'est passé en automne 22 en Iran est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Ce qui s'est passé dans les mouvements de décolonisation était aussi tout à fait remarquable. On n'y a pas été assez attentif. Mais il y a un autre élément qui, je pense, vous plaira davantage parce que peut-être plus directement axé sur l'action et sur les politiques, à savoir un réflexe utilitaire chez le prince. Il y a un moment où le prince au sens Machiavel du terme, hein, où le prince est conscient du fait qu'il ne peut plus aller contre son histoire sociale et que de toute façon cela coûterait trop cher de le faire. Et c'est peut-être ça qui est la source de l'équilibre nouveau. Finalement, toutes les puissances coloniales ont consenti à la décolonisation. Pourquoi? Parce que une guerre comme la guerre d'Algérie, ou ce qui s'est passé au Kenya, ou ce qui s'est passé au Cameroun, ou ce qui s'est passé en Indochine, etc., ça devenait trop coûteux, donc on arrête. Donc, c'est intéressant de voir ce thermostat politique qui, peu à peu, sait s'adapter aux pressions sociales. Regardez, Netanyahu aurait probablement continué son œuvre de destruction si cette pression de l'opinion publique internationale, y compris de l'électorat trumpien aux États-Unis, n'avait pas conduit le maître de la Maison-Blanche et Netanyahu lui-même à cesser, d'ailleurs de manière incertaine, la guerre, mais enfin, il y a quand même moins de bombes sur Gaza depuis octobre dernier, parce que il y a eu quand même une crispation de l'opinion publique internationale, des mobilisations dans les campus universitaires dont on n'avait jamais imaginé l'importance et le rôle décisif, d'ailleurs qui ont fait peur à Paris, qui ont fait peur à Washington et qui ont reconfiguré le jeu international.
Alors justement, Louis Arnault, je rappelle, hein, vous avez été détenu 2 ans dans les prisons iraniennes, cette énergie sociale que théorise Bertrand Badie, vous l'avez éprouvé jusqu'au cœur des prisons iraniennes. Quelle forme elle prend en Iran, cette énergie sociale, avec tous les gens que vous avez rencontrés dans les prisons, dont vous dressez le portrait d'ailleurs dans votre livre?
Ouais, alors elle prend des formes très très diverses, mais c'est ça, enfin pour se rapprocher de ce que vous disiez, c'est le caractère imprévisible. Et je me souviens très bien parce que j'ai vu défiler, enfin les premiers mois de mon incarcération, j'étais pas dans une cellule, j'étais dans un corridor, j'étais dans un couloir où il y avait absolument rien. On était juste entassés
c'est
les uns sur les
quand,
autres.
Chronologiquement, pour préciser, vous dites.
C'est les 3 premiers mois, donc entre septembre 2022 et la fin décembre 2022, tout le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et là, je vais voir. Moi, je suis le seul à ne pas sortir de ce corridor. Les gens finissent par être libérés au bout d'un moment, sous conditionnel. Et je vais voir défiler des centaines de manifestants. Et donc, je vais voir défiler tout ce mouvement avec des gens de toutes les couches de la société, que ce soit des dealers, des médecins, des maçons, les étudiants des meilleures universités, les poètes, les artistes, tous. Et ce qui est frappant, c'est que c'est des gens qui, en fait, en soi, n'ont rien à voir entre eux, si ce n'est un désespoir commun. Y a vraiment quelque chose qui est très caractéristique chez cette population et qui va pouvoir se retrouver chez d'autres populations, mais en tout cas en Iran, c'est très très fort, c'est un désespoir, c'est une suffocation de liberté. Parce que vous soyez, qui que vous soyez aujourd'hui en Iran, que vous vouliez vivre, que vous vouliez vous loger, que vous vouliez avoir des enfants ou non, vous marier ou non, que vous vouliez chanter, danser, écouter de la musique, il n'y a aucun espace. Il n'y a absolument aucun espace. Et donc ce sont des gens qui sont unis par cette suffocation de liberté et par ce désespoir. Mais ce qui était très intéressant aussi, c'était la manière dont étaient menés les interrogatoires. Parce qu'on sentait bien dans les questions qui étaient posées aux gens qu'il y avait la recherche du leader, il y avait la recherche du meneur, de qui avait organisé. Alors, ça.
Justement, Louis, on mesure souvent finalement la solidité d'une dictature à la détermination de ceux qui la défendent et de ceux qui la protègent. Comment se comportaient les gardiens de prison, les gens qui vous interrogeaient? Est-ce que vous sentiez des idéologues convaincus? Est-ce que vous sentiez des exécutants un peu peureux? Est-ce que vous sentiez des hommes pris dans un système qu'ils subissent aussi?
Alors oui, c'est un mélange de tout ça qui est effectivement très complexe. Il y a un phénomène de banalisation du mal dont on parlait Arendt, et comment on peut arriver à s'abandonner à une telle violence envers des gens de son propre peuple. Mais il y a aussi une question de peur et de paranoïa. On est dans un système de terreur et de paranoïa qui est la République islamique, où tout le monde suspecte tout le monde, où tout le monde a peur de l'autre, parce que on sait qu'il y a il y a énormément de délation au sein de la population, mais aussi entre les membres du régime. C'est toute la société et tout le régime et tout l'appareil d'État qui macère dans le chaudron de la peur. J'ai vu les gardes se surveiller entre eux. J'ai vu les gardes qui n'osaient pas me parler parce qu'ils se savaient surveillés. Ils avaient peur que eux-mêmes d'être accusés d'espionnage. Et donc on en vient là, en fait. C'est que tout le monde a peur. Et à un moment, on finit par obéir parce qu'on est pris dans ce système de peur, et aussi parce que aujourd'hui en Iran, en fait, la catastrophe économique est telle que faire partie des gardiens de la révolution, faire partie des services de renseignement, est un des rares moyens de s'en sortir aussi économiquement, en fait. Et donc on est face à cette réalité-là, en fait. Ce sont des gens, les Iraniens, tous autant qu'ils sont dans un système de survie, et il y a des gens qui ont trouvé ce moyen de s'en sortir, et pour beaucoup, pas vraiment par choix, parce qu'ils ont été abreuvés de haine et de propagande toute leur enfance, et qui se retrouvent dans ce système-là, et qui se retrouvent à devoir déployer toute cette violence. Et donc, c'est quelque chose de... c'est une confrontation, c'est un dilemme moral permanent pour les Iraniens, que ce soit les bourreaux, mais aussi au sein de la société.
Mais est-ce que c'est une société qui est vraiment... paralysé par la peur, ou bien est-ce que c'est une société qui est épuisée économiquement? Vous diriez que le plus dur au quotidien pour les Iraniens, c'est quoi? C'est les frustrations économiques, c'est la privation de liberté, c'est l'emprise religieuse. Alors vous allez me dire c'est sans doute tout ça, mais qu'est-ce qui au quotidien, vous, dans les aspirations, vous paraissait le plus important?
Ce qui revenait beaucoup, c'était la question de la liberté. Et je crois qu'il faut bien le souligner, c'est quelque chose de très prégnant et qui est vraiment une spécificité de la question iranienne. Quand vous vous baladez en Iran, vous avez l'impression d'être dans le sud de l'Europe, en fait. La manière dont les gens parlent, dont les gens communiquent, se comportent, ils sont très occidentalisés, et donc très très en marge de d'un régime extrêmement répressif qui est le système iranien. Maintenant, effectivement, il y a la question économique. Et ça, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui me l'avaient déjà prédit en prison à l'époque du mouvement Famille Liberté, quand ils ont compris que ce mouvement serait lui-même réprimé. C'était, on sait que là, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais il y aura un prochain soulèvement, et là, l'étincelle qui viendra, c'est l'économie. Et qui avait déjà eu lieu en 2019, au moment où il y avait eu une augmentation du prix du pétrole. Mais parce qu'il faut bien prendre conscience de l'état dans lequel se trouve l'économie iranienne aujourd'hui. À l'époque de la révolution, le rial, enfin le toman, valait 1 dollar. Au moment de mon arrestation, c'était 30 000 tomans valaient 1 dollar. Aujourd'hui, on est à 160 000. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont obligés de cumuler 2-3 boulots pour s'en sortir avec un salaire de base à peine d'une centaine d'euros et qui ne peuvent plus vivre, qui n'ont plus assez à manger chez eux, qui s'entassent sous des tentes sur les toits d'immeubles avec leur famille pour vivre parce que même se loger est devenu un luxe. Et donc, c'est ça aujourd'hui que même déjà à l'époque du mouvement Famille Liberté, c'est ça que les gens réclamaient. C'était de la liberté, de la dignité.
Bertrand, un mot ?
Oui, ce que vous dites est très fort et nous renvoie à un mot qu'on n'a pas encore employé, qui est le mot souffrance. La dynamique des relations internationales aujourd'hui, elle est réglée sur cette notion de souffrance. Autrefois, on souffrait de manière fatale, de manière résignée, parce qu'on ne voyait pas celui qui ne souffrait pas. Aujourd'hui, avec les communications modernes, et y compris en Iran, où on sait tout ce qui se passe dans le monde, on souffre en se comparant à l'autre. Et ceci est une source de mobilisation absolument incroyable. La deuxième chose que je voudrais ajouter, qui est, moins rassurante encore, c'est que de cette énergie sociale, de cette souffrance, il peut sortir du bon comme du très mauvais. C'est-à-dire, il faut voir le rôle qu'a pris la colère sociale, voire la rage.
Alors, on va y venir, Bertrand, mais j'avais une autre question à poser avant à Louis, parce que ce sera notre point d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Cette société iranienne, est-ce qu'elle est fragmentée ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a une fracture générationnelle ? Est-ce qu'il y a une fracture entre les villes et les campagnes ? Est-ce qu'il y a une fracture sur le plan religieux ? Est-ce que c'est une société soudée ? Ou est-ce que c'est une société en conflit ?
Alors effectivement, ce serait une erreur que de vouloir absolument projeter notre désir de liberté pour ce peuple et de démocratie, il faut bien dire, sur toute une population. Parce qu'il y a aussi encore une frange de la population qui est conservatrice. Il y a encore une frange de la population qui soutient ce régime et toute l'idéologie, parce que l'idéologie était encore très présente et qui représente peut-être encore 10% de la population. Il y a une forme de fracture, peut-être que le mot est fort, entre les villes et les campagnes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'Iran a connu un boom de population après la guerre Iran-Irak. Et donc, on a aujourd'hui une population qui est extrêmement jeune. L'essentiel de la population avait encore moins de 35-40 ans. Donc, c'est une population qui est très jeune, qui n'a pas connu en plus l'avant-révolution. Et c'est aussi une population qui est très urbaine. Et donc, effectivement, oui, il y a des différences au sein de la société, mais il y a quand même un mouvement qui est très fort et qui est aussi beaucoup porté par les femmes au sein des familles vers une union de la société sur ces sujets de liberté, de démocratie, de dignité.
Si, alors faisons un peu de fiction, si les sanctions économiques étaient levées demain, s'il y avait un changement de régime, sans parler forcément de révolution, est-ce qu'il y a de fortes chances ce pays rentre dans une spirale positive, ou est-ce que, et je vous demanderai à tous les deux votre réponse, ou est-ce que on a une chance de se retrouver dans la configuration qu'évoque Bertrand Badi à chaque fois, finalement, de ces interventions qui n'ont pas construit d'avenir dans les pays qu'on a cru finalement libérer.
Alors, il y a le sujet de l'intervention qui est encore un sujet à part.
Ouais.
Parce que, de toute façon, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, moi, à mon sens, c'est que la République islamique, de toute façon, est à bout de souffle. Et c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique que j'ai pu observer en prison, c'est que dans ce pays, il n'y a aucune prospective. En fait, le mot qui caractérise le mieux la République islamique, à mon sens, c'est kleptocratie. C'est le pillage des ressources. Sans aucun plan. C'est un État qui vit de crise en crise et qui, de toute façon, on le voit aujourd'hui, est à bout de souffle. Il n'y a plus d'eau, il y a des coupures d'électricité en permanence, il y a plus d'énergie et le pouvoir s'est resserré. Il n'y a plus que ce système, ce complexe militaro-industriel autour des gardiens de la Révolution qui reste. Et donc ça, c'est toute la question. Maintenant, Que se passera-t-il au terme d'une transition? Ça, évidemment, c'est extrêmement difficile de le prévoir. Ce qui peut nous amener quelque chose de positif demain, c'est si, à un moment, l'opposition, que j'ai rencontrée également en prison, parvient à s'unir. Et il y a effectivement des gens qui tentent de faire ça aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui sera rendu plus facile à partir du moment où il n'y aura plus cette infiltration permanente de la République islamique au sein des oppositions, qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue est extrêmement difficile.
Est-ce qu'on peut nourrir un certain optimisme, Bertrand Badi, sur l'issue de cette situation qui, on le voit bien, va devoir se dénouer?
Vous savez, les analystes comme les acteurs, les praticiens de la politique internationale, ont toujours fait porter leurs réflexions, sur l'état du système politique. Il faut le faire, c'est très important. Mais on ne s'est jamais interrogé sur les pathologies des sociétés. Et maintenant, de plus en plus, l'histoire est structurée, organisée en fonction de cette pathologie des sociétés. Il y a un homme qui, le premier, je crois, avait compris l'enjeu. Il y en avait peut-être deux. Deux secrétaires généraux des Nations Unies, Boutros Ghali, dans son agenda pour la paix, et le grand Kofi Annan, qui lui a succédé. Et Kofi Annan disait, mais c'est en promouvant le multilatéralisme social, c'est-à-dire en soignant, employons le terme même de façon métaphorique, en soignant les sociétés, qu'on pourra résoudre les problèmes. Les sociétés européennes sont malades. La société états-unienne est profondément malade. La société russe est malade. Beaucoup de sociétés du Sud sont malades. Il faut effectivement soigner ces pathologies.
15 secondes pour nous dire votre scénario iranien. Vous disiez, on en parlait avant l'émission, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Il y a un espoir maximal, un espoir minimal. Vous avez 30 secondes.
Oui, alors, toutes les guerres d'intervention et de régime change ont échoué depuis 1945, sans aucune exception. Donc, ça ne peut venir, justement, que d'un sursaut social. Je pense que la chance, ce serait une convergence entre le sursaut social et la réforme politique. Maintenant, qui peut être les entrepreneurs de cette réforme politique? C'est une interrogation. Comment marier ce sursaut social à l'entreprise politique? C'est une autre question.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Bertrand Badi, Par-delà, la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, c'est chez Odile Jacob. Et Louis Arnaud, la révolution intérieure, c'est aux éditions Équateur. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec le coup de cœur de la rédaction, nos ultimes choix. Vous aurez aussi notre patrie d'études et de statistiques de la semaine. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, grand animateur de la rubrique livre dans Alternative Économique, le magazine. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Xavier de Jarcy, « Le fascisme en col blanc », c'est aux éditions Critique.
C'est un livre qui est un peu épais et de mon point de vue, de temps en temps, il va un peu trop dans les détails. Mais quand même, j'ai trouvé l'ouvrage vraiment passionnant. Pourquoi ? Parce que ça nous plonge chez les grands patrons industriels dans la France des années 20 et des années 30. Et de leurs choix politiques. Alors, le livre se concentre sur le redressement français, qui était un ensemble d'industriels français vraiment important, et sur son patron, Ernest Mercier, qui est le dirigeant de la jeune compagnie française des pétroles. Alors, il faut dire tout de suite, Mercier, son idole, c'est Benito Mussolini. Donc, autour de ces patrons, ces grands patrons industriels, il y a la volonté de chercher un pouvoir autoritaire qui va enfin remplacer tous ces parlementaires qui, à l'Assemblée nationale, n'arrivent jamais à se mettre d'accord, font rien pour que l'économie française se porte mieux. Donc, il nous faudrait un gouvernement autoritaire. Il faut qu'il y ait une sorte d'élite technicienne. Alors, c'est bourré de polytechniciens. Mercier est un polytechnicien. Je pense que Jean-Marc a repéré qu'il y avait autour de lui beaucoup de polytechniciens qui veulent vraiment faire l'éducation économique des Français. Faire l'éducation économique des Français, ça veut dire quoi? Faire comprendre ce que c'est qu'une politique économique rationnelle. Une politique économique rationnelle, c'est quoi? C'est réduire la dépense publique, c'est réduire la dépense sociale, même s'il n'y a pas encore la Sécu à l'époque. Tout ce qui va vers la réduction du temps de travail, etc. Toutes les politiques sociales. Vraiment, il faut jeter ça à la poubelle. C'est une période aussi où tout la quasi-totalité des grands journaux sont la propriété des grands patrons. Bien sûr, on parle de François Cotil, parfumeur, qui a mis la main sur le Figaro, mais il n'est pas complètement en contrôle du Figaro, donc il crée son propre journal, l'Ami du Peuple, même Le Temps, Le Matin, le journal L'Œuvre, enfin, la quasi-totalité des grands journaux économiques et des grands journaux en général sont à la main des patrons. Bien évidemment, quand Léon Blum arrive, c'est la catastrophe. Léon Blum, c'est le personnage Oni. Le redressement français, c'est entre 26 et 35. Donc, après les émeutes du 6 février 34, ils vont décider de se dissoudre. Mais une partie va aller soutenir le Parti populaire français, Jacques Doriot. Et l'autre partie va même rejoindre la cagoule, carrément. Hein, c'est excité d'avant, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui vont jusqu'à l'action violente. Une bonne partie de ces gens vont servir d'élite technicienne au gouvernement de Vichy, collaborationniste. On se retrouve dans ces années 20-30 et en même temps, très souvent, en lisant le livre, on se dit il y a quand même des petites choses qui nous rappellent la période contemporaine et malheureusement, je pense que la ressemblance n'est pas fortuite du tout.
Jean-Marc Daniel.
Oui, j'ai pas exactement la même lecture. Je considère en effet que la ressemblance est plus ou moins mise en avant. D'ailleurs, dans l'introduction, il dit « vous allez retrouver des choses ». Mais il est très prudent, l'auteur. Et d'ailleurs, dans le quatrième de couverture, l'éditeur dit « vous allez voir, il y a des complots qu'on nous a masqués ». Il dit « non, c'est pas des complots. Il faut pas, effectivement, on a peut-être minimisé le rôle de ces gens-là, mais il faut pas non plus leur donner un rôle de grand manipulateur. » Parce que, effectivement, ce qu'a dit Christian, c'est que le Rassemblement français s'est dissous dans les années 30. En fait, il y a deux périodes dans le livre. Il y a vraiment la période des années 20, avec une obsession qui est le cartel des gauches, et qui est le gouvernement du cartel des gauches pendant qu'il est au pouvoir, et puis la façon dont on en sort et tout ça. Et puis, deuxième période, c'est le Front Populaire, avec un personnage, c'est un personnage qui joue un rôle, à mon avis, aussi important que les patrons, qui est Jacques Doriot. On a parlé du PPF. Dans les années 20, il est communiste, il est le symbole de personnage qu'il faut absolument abattre. Et dans les années 30, il a rompu avec le Parti communiste et il devient, au contraire, le symbole du personnage qu'il faut absolument soutenir. Alors, on croise tout un tas de gens. Donc, il n'y a pas que des polytechniciens, parce que François Coty rappelle qu'il n'était pas polytechnicien. Il arrivait du maquis corse. Et donc, c'est pas son vrai nom, c'est le nom de sa mère. Alors, effectivement, il y a deux personnages. Il y a Ernest Mercier, donc, qui est le polytechnicien des années 20. Il y a Eugène Deloncle, qui est le porcelain, le polytechnicien des années 30. Et ce que je trouvais intéressant dans le livre, c'est d'ailleurs, il y a deux parties. Le livre se dit première partie, deuxième partie. Il y a vraiment deux phases. Il y a une phase de gens qui sont absolument traumatisés à la fois par le cartel des gauches et par la révolution russe, par le bolchevisme. Mmh. Et puis, il y a la deuxième phase, qui est la phase délirante. Parce que là, on est dans le délire. Comme l'a dit Christian, ça va tourner à la violence et au meurtre. Ils vont assassiner des gens. Et donc, on est quand même dans un mécanisme et un phénomène qui aura eu assez peu d'impact finalement. Alors après, il y a des personnages qui a quelqu'un qui n'est pas un polytechnicien, qui apparaît assez souvent dans le livre, qui est Raphaël Alibert, qui est un juriste, qui va devenir ministre garde des Sceaux sous Pétain et tout ça. Et donc, le livre, pour conclure, le livre, à la fois, on apprend des choses, on se noie un peu dans les détails. Ouais. On se noie un peu dans les détails. Et je crois que l'idée de véritablement dire, il faut le projeter sur, c'est passé un peu à côté du livre. Il y a vraiment une atmosphère, une période, et se réfléchir au travers de cette période à ce traumatisme qui a été d'une part la révolution bolchevique et d'autre part la montée en puissance du nazisme et ces années 30 où on n'arrivait pas à se sortir de la crise et ces années 30 où on voyait effectivement ce gouvernement Léon Blum qui n'était pas vraiment bolchevique mais dont on n'avait pas envie qu'il exerce le pouvoir et les responsabilités qui lui ont été confiées.
Et on complète, Jean-Marc, cette lecture avec votre choix qui finalement prolonge un petit peu le choix de Christian du fascisme en col blanc. C'est le livre d'Alexandre Chirin, Gilivaldi notamment, L'économie politique du populisme. C'est un repère, la découverte. Qu'est-ce que c'est que cette économie politique du populisme?
Alors effectivement, c'est un peu dans la continuité, sachant que les références des années 20-30, c'était Staline, Mussolini, Hitler. Maintenant, c'est des gens qui sont heureusement moins monstrueux, qui servent de référence à ces mouvements. Alors c'est un économie politique, c'est au sens moderne, c'est pas économie politique telle qu'on l'employait au 18e ou au 19e siècle. C'est cette façon nouvelle de construire la politique, l'étude de la politique au travers de l'usage des outils de l'économie appliqués à la politique. Alors le livre, moi j'ai trouvé que le livre était intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi, même si il est inégal. En fait, on voit très vite que les auteurs se sont pas véritablement coordonnés, donc il y a des chapitres qui ont été écrits par certains qui me paraissent un peu fastidieux. Le chapitre 2 sur où on retrouve les lecteurs médians, où on retrouve les stratégies électorales avec des équations, en fait, avec des... Bon, j'ai pas trouvé ça très intéressant. En revanche, le premier chapitre sur qu'est-ce que le populisme, c'est-à-dire comment définir le populisme, ouais. Comment le populisme est avant tout un mouvement contre les élites, c'est pas un mouvement qui est pour quelque chose, c'est un mouvement qui est contre les élites, c'est un mouvement qui est contre les juges, c'est un mouvement qui est contre la presse, c'est un mouvement contre une certaine forme d'organisation sociale de gens qui se sentent effectivement victimes. C'est assez bien analysé. Il y a un chapitre sur les raisons économiques du populisme qui est bien construit, où ils disent il y a des raisons structurelles, la mondialisation, il y a le progrès technologique qui remet en cause, y compris des gens qui se sentaient pas menacés jusqu'à présent. Et puis il y a eu cette récession de 2008-2009 où ils disent, je trouvais que c'est assez intéressant de dire, finalement on n'a pas mesuré sur le moment les conséquences de cette récession qui a été assez violente et qui a vraiment ébranlé toute une dynamique de croissance économique et de la mondialisation heureuse s'est effondrée.
On parle pas que de la France, on est d'accord.
Oui, absolument. Et puis alors après il y a les conséquences économiques du populisme, de la façon dont les politiques économiques sont menées, et on ne parle pas que de la France d'une part, et on ne parle pas que des mouvements de droite. Il y a aussi un populisme de gauche, disent-ils. Il y a même un populisme du centre. Ils mettent en avant, il y a quelques éléments sur la République tchèque, où il y a un parti qui est un parti au pouvoir, qui est un parti libéral-conservateur, qui est très libéral en économie, conservateur sur les mœurs, qu'ils identifient au populisme. Donc, c'est un livre c'est un livre utile à lire, mais il faut faire le tri dans les chapitres.
Christian.
Je partage assez l'avis de Jean-Marc. C'est un bon repère, c'est vraiment un guide synthétique de la littérature sur le populisme et sur l'approche économique du populisme. Premier chapitre, effectivement, nous guide même dans la science politique plutôt. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Quelles différentes études, quelles différentes définitions? C'est bien. Et après, il y a 5 chapitres sur l'approche plutôt économique du populisme. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Marc, le chapitre 2, assez théorique des modèles hors sol pour essayer d'expliquer le populisme. Moi, j'ai pas accroché non plus. Par contre, après, donc, il y a les déterminants économiques et les déterminants socioculturels du populisme. En même temps, le livre est vraiment bien fait, mais ce qu'il nous dit, c'est que franchement, les économistes n'ont pas grand-chose à nous dire en fait sur le populisme, parce que dire quand on est victime de l'automatisation, de la mondialisation, de la crise financière et que tout d'un coup on se sent un petit peu déprimé, déclassé, qu'on a été victime, on a plutôt tendance à écouter les populistes. Bon, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'écrire des bouquins et de faire des études et des équations économiques pour comprendre? Pareil du côté des déterminants culturels du populisme, dire quand on sent que le statut social est déclassé, lorsqu'on a un petit peu peur des immigrés, on écoute plutôt les voix des populistes. Bon, ça on le savait aussi un peu déjà. Ils essayent de nous expliquer ce que sont les choix économiques des populistes. Donc ils nous disent, ils ont d'abord été très libéraux, puis après ils ont été à plus avec des politiques de gauche entre guillemets. Mais il manque la dernière phase, parce que chez Mélenchon, au Rassemblement National, chez Trump, on voit qu'ils sont plutôt proches des entreprises et des très riches. Et là, cette dimension est pas expliquée. Et puis le dernier chapitre, c'est pour nous dire, écoutez, les impacts vont être très négatifs sur la prospérité, sur la croissance, et très négatifs sur la démocratie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On voit bien que Trump 1 était protectionniste, Biden l'a toujours été, et Trump 2 l'est, donc oui, ça va dans leur sens. Et en même temps, on voit que Trump aujourd'hui s'attaque à la réserve fédérale, on a l'impression qu'elle tient bien, donc là, ce sera pas durable. Donc voilà, on manque un petit peu encore d'éléments, mais encore une fois, le bouquin est vraiment très bien, belle synthèse, mais ce qu'ils nous disent, c'est que franchement, les économistes n'ont pas grand-chose d'original à nous apporter pour comprendre le populisme.
Globalement, si on fait la synthèse de ces deux livres, quelles leçons du passé finalement on peut tirer pour lire la période actuelle?
Moi, je dirais que par rapport aux années 20-30, effectivement, il y a moins d'excès quand même, parce que encore une fois, dans les années 20-30, il y avait un excès, y compris dans les références. Hitler, Staline, c'était quand même
Mussolini,
oui, ouais. Mussolini, qui est beaucoup la référence, effectivement, parce que c'était la référence presque présentable par rapport aux deux autres. C'était vraiment des monstres. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Bon, là maintenant, les références sont moins Trump. C'est pas Mussolini, c'est d'ailleurs il y a un des personnages qui se fait appeler Mussolinette par la presse. J'ai trouvé cette expression des gens qui s'inspirent de Mussolini mais qui vont pas jusqu'au bout. Donc c'est des Mussolinettes. On est plutôt à la période des Mussolinettes.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de recevoir notre invité pour évoquer l'étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est ce travail conduit par Ipsos BVA pour Reliance, la première vague de l'Observatoire européen des risques et opportunités des établissements de santé. C'est un éclairage passionnant sur les vulnérabilités des systèmes de santé européens à travers la cartographie de 25 risques majeurs. Étienne Mercier, bonjour.
Bonjour.
Étienne, vous avez dirigé l'étude et vous dirigez d'ailleurs la division santé au sein du pôle société d'Ipsos BVA. D'abord, c'est quoi ces risques majeurs pour nos systèmes de santé ?
Bien, en fait, on est allé cartographier toute l'originalité du dispositif. Il est double. D'abord, on n'est pas allé interroger les populations nationales, mais on est allé interroger eh bien les médecins qui travaillent à l'hôpital, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi ceux qui dirigent des services, voire des établissements hospitaliers. Et ça, on l'a fait au niveau européen. C'est donc très, très rare. Et l'idée, c'était de cartographier donc 25 risques. On a élaboré avec un pool d'experts et on a posé des questions très très simples en fait à ces gens qui étaient finalement quelle est la probabilité pour que chacun des risques aujourd'hui survienne et frappe votre établissement, son impact potentiel bien entendu et puis leur niveau de préparation.
Alors qu'est-ce que ces professionnels redoutent le plus aujourd'hui d'abord en Europe et l'autre conclusion majeure quand même de votre étude c'est que globalement eh bien on est plus inquiet en France que dans le reste de l'Europe.
Oui, alors on peut parler d'un top 3 ou d'un top 10 de risques, mais le véritable renseignement, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans un monde de polycrise à l'hôpital, et je pense pas que beaucoup de personnes en aient vraiment conscience. Les hôpitaux doivent plus seulement faire face à d'un manque de moyens personnels, mais il y a aujourd'hui des risques démographiques avec le vieillissement de la population, et il s'estime aujourd'hui fortement impacté par ce type de risque. Des risques RH aussi avec la pénurie du personnel, des risques économiques avec l'explosion des coûts, des risques technologiques avec les cyberattaques. Et on a vu récemment que dans les Hauts-de-France ou dans d'autres régions, ces risques existent. Donc cette idée qu'aujourd'hui que les risques sont désormais des polyrisques est totalement diffusée dans la population des soignants et au sein de l'hôpital. Et puis on a surtout des risques qui désormais sont selon eux interconnectés. C'est une forme de toile d'araignée. La pénurie de soignants provoque de l'épuisement. L'épuisement vient provoquer des erreurs médicales. Les erreurs médicales provoquent finalement des hausses des coûts parce qu'il faut indemniser les soignants, etc., etc., etc. Et quand un maillon lâche aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui lâche et c'est toute l'originalité, je trouve, de cette enquête. C'est de montrer à quel point aujourd'hui les risques sont multiples à l'hôpital.
Alors, Étienne Mercier, certes, mais c'est quand même en France que la chaîne de risque que vous décrivez, finalement, est la plus fragile.
Alors oui, c'est vrai que la France se distingue très fortement. D'abord parce que à 5 et à 10 ans, les cadres hospitaliers qu'on a interrogés sont les plus pessimistes et ils sont bien plus pessimistes que les cadres hospitaliers qu'on peut interroger en Allemagne ou dans les autres pays européens. Et il y a un décalage majeur aussi en termes de niveau d'exposition, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des établissements hospitaliers qui s'estiment beaucoup plus exposés à ces risques et aussi beaucoup moins préparés que les autres pour y faire face. C'est donc un vrai sujet, je veux dire, là encore, le système de santé français dont nous étions si fiers il y a encore quelques années montre à quel point le panorama s'est vraiment obscurci au sein même de l'hôpital.
Merci beaucoup, Étienne Mercier, pour ce décryptage de cette passionnante étude, donc le première vague de l'Observatoire européen des risques et opportunités des établissements de santé. On suivra de près les suivantes. Merci beaucoup, Étienne Mercier.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on commence avec ce rapport de la Commission européenne, le Debt Sustainability Report, rapport d'analyse qui évalue si la dette publique des États de la zone euro est soutenable à moyen et long terme. Dit autrement, est-ce qu'un pays pourra continuer à rembourser sa dette sans crise, sans restructuration et sans explosion des impôts ou de l'inflation? Eh bien, la réponse alarmante que livre la Commission européenne, c'est que pour la France, eh bien, cette réponse est sans doute non, puisque dans le scénario de base, à horizon 10 ans, 2036, la France se retrouve avec une charge d'intérêt qui dépasse 5,5% du PIB, pendant que la croissance nominale, c'est-à-dire en valeur plus en volume, eh bien, reste proche de 3%. Or, lorsque le coût moyen de la dette dépasse durablement la croissance nominale, eh bien, c'est l'effet boule de neige de la dette qui s'auto-alimente et ne serait-ce qu'équilibrer les comptes publics ne suffit plus à enrayer le gonflement de la dette.
Le chiffre de la semaine.
Et le chiffre de la semaine, c'est cette note de Citrini Research qui a fait l'effet d'une bombe et ébranlé les marchés financiers. Citrini Research, c'est un petit cabinet indépendant d'analyse financière qui fournit donc des études et des projections très pointues et très suivies par les investisseurs. Et que nous dit cette note? Alors attention, les auteurs précisent bien que ça n'est pas une prévision, disons que c'est un scénario possible sur l'impact de l'intelligence artificielle. Un scénario donc en quatre temps. 1. L'IA génère très vite des gains de productivité importants dans presque tous les secteurs de l'économie, le commerce, l'industrie, l'assurance, toutes les professions expertes, hein, la médecine, le droit, etc. Du coup, les licenciements se multiplient, le chômage augmente, les salaires baissent. Du coup, la demande baisse, la consommation, donc notamment le crédit se contracte, le coût de la dette augmente inexorablement, les banques perdent de l'argent, les bourses décroche et donc nous sommes dans un véritable cercle vicieux finalement dans lequel s'auto-entretiennent les gains de productivité de l'intelligence artificielle, les licenciements, des revenus plus bas, l'automatisation poussée toujours plus loin avec des effets terribles sur les marchés financiers, sur la richesse des ménages et sur le ralentissement économique. C'est un peu le scénario noir du progrès technologique avec un chômage de masse, sachant que à ce scénario noir, les experts finalement, qui eux sont plutôt positifs, nous disent « mais attendez, à chaque révolution technologique, on a toujours créé beaucoup plus d'endroits qu'on en a détruit. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci ?» Bah, vous avez avec Citrini Research l'exemple de gens qui nous disent que oui, cette fois-ci, ce sera différent. Un scénario à scruter de près donc.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre éditorialiste internationale, Annalisa Cappellini. Bonjour Annalisa.
Bonjour Emmanuel.
Alors, un livre aujourd'hui pour évoquer les 4 ans de la guerre en Ukraine sous un angle original. Ça s'appelle Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines d'un bouleversement mondial. C'est aux éditions Armand Collin. Et c'est un livre où, finalement, on place l'accent sous l'angle de l'agriculture. C'est un livre collectif, hein. Ils sont 3 auteurs.
Oui, c'est Sébastien Abyss, Arthur Portier et Thierry Pouche. Les 3 sont des experts agricoles. Et Sébastien Abyss, notamment, est un de nos experts qui vient souvent nous voir en matinale pour l'interview du 7-20 pour nous expliquer le poids de l'agriculture sur les enjeux géopolitiques. Et voilà, vous l'avez bien dit, en fait, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre 2 puissances agricoles. On l'avait un peu en tête au tout début de la guerre, il y a 4 ans, quand on disait que l'Ukraine était le grenier d'Europe, quand on commençait à apprendre que l'Ukraine produisait énormément de blé. Mais la réalité, c'est que et l'Ukraine et la Russie sont 2 énormes producteurs de blé, d'orge, de maïs, de colza. Il y a les engrais. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de sécurité alimentaire aussi dans le conflit entre ces 2 puissances. Et ce que ce livre nous dit et nous explique, c'est que l'agriculture est une arme, donc une arme qui peut servir au développement, mais une arme qui peut servir aussi pour la guerre.
Puisque l'agriculture est une arme, comment finalement les 2 puissances de cette guerre l'utilisent? Comment Poutine utilise par exemple l'arme agricole?
Il y a 2 stratégies opposées et c'est là que Poutine, encore une fois, a fait preuve d'un sens politique absolument admirable. C'est que depuis le début des années 2000, il a réarmé son agriculture. Donc il a commencé à l'utiliser de manière très très consciente pour s'imposer en tant que grande puissance, avec des investissements publics, avec la consolidation des acteurs privés, avec une projection diplomatique, avec énormément d'armes de tout type pour arriver à être une grande puissance agricole. Vous vous rappelez quand il avait utilisé les engrais comme des outils diplomatiques? C'était un peu l'équivalent des droits de douane de Donald Trump, non? Si vous, les Européens, vous faites pas ce que je vous demande, je vous bloque les engrais. Donc il avait réussi finalement à obtenir des concessions de la part des Européens. Donc c'est tout ce que l'Ukraine n'a pas fait. L'Ukraine, qui elle aussi grande puissance agricole, eh bien, elle a été bloquée par des blocages internes, par des problèmes de corruption. Donc, elle ne s'est pas développée du point de vue agricole autant qu'elle aurait pu le faire. Donc, vous voyez, il y a une disparité aussi du point de vue agricole. Et on est sur un conflit qui est agricole dans le conflit militaire. Donc, si on va un peu plus loin que le terrain.
Et le paradoxe, c'est que ce renouveau de la puissance agricole russe s'explique aussi par l'embargo que l'Europe avait décrété contre les céréales russes. Ça explique aussi finalement pourquoi l'Ukraine est aussi convoitée par la Russie. C'est-à-dire que même si la Russie est redevenue une grande puissance agricole, l'Ukraine, ça reste le grenier à blé de l'Europe.
Bien sûr, il y a un enjeu énorme. Donc oui, quand on parle d'Ukraine, on parle de terres rares, on parle de minerais stratégiques, c'est ce qui intéresse les États-Unis. Mais on parle aussi de maïs, tout simplement. D'où, d'ailleurs, une immense question sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'intègre à l'Union européenne et du coup, on a un immense concurrent agricole à l'intérieur de notre Union? Vous vous rappelez la polémique, par exemple, sur le poulet ukrainien qui faisait énormément de concurrence. Les agriculteurs polonais, eux, ils se plaignent beaucoup d'avoir cette concurrence des Ukrainiens, ce qui est absolument compréhensible parce qu'ils sont, très proches. Et en même temps, si on n'intègre pas l'Ukraine, on aura un immense concurrent juste à côté de nous, qu'on aura subventionné et aidé pendant des années, très justement, évidemment, pour les aider pendant le conflit. Mais on aura quand même un immense concurrent juste aux portes de l'Union européenne. Et il faut savoir aussi que l'Ukraine intéresse évidemment la Russie, mais elle intéresse aussi beaucoup d'autres États. Elle intéresse les États-Unis, par exemple. Les États-Unis qui sont eux aussi une puissance agricole, mais qui se spécialisent plutôt dans le maïs et dans le soja. Donc pourquoi pas se tourner vers l'Ukraine pour avoir tout le blé dont ils ont besoin. L'Ukraine intéresse la Chine, par exemple. La Chine qui veut renforcer son indépendance alimentaire et qui a un vrai problème d'exode rural. Donc les jeunes Chinois quittent les campagnes pour aller en guerre. Donc pourquoi pas récupérer du maïs et de l'orge de l'Ukraine.
Merci beaucoup, Annalisa Cappellini, pour cette lecture magistrale de Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines d'un bouleversement mondial, donc chez Armand Collin. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Je reste dans le thème des livres qu'on a traités tout à l'heure avec Jean-Marc, puisque j'ai choisi le livre du jeune politiste Arnaud Miranda, sur qui est une enquête sur les néo-réactionnaires, un groupe de gens qui sont autour de Donald Trump.
Ouais.
Et le livre est assez fascinant parce qu'il nous montre que ces néo-réactionnaires se sont constitués sur Internet, c'est une communauté de blogs, pas du tout des grands livres, tout ça, c'est des blogueurs qui sont échangés, les Curtis Yarvin, les Nick Land, etc. Et c'est assez fascinant parce que quand on rentre dans la littérature de ces gens, ils sont complètement illuminés. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une pseudo-philosophie politique qui ressort avec aucun sens. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils ont réussi à trouver une porte d'entrée dans le Parti républicain, proche de Trump, proche surtout du vice-président J.D. Vance. Et moi, je suis vraiment sidéré. Donc, tout ce qui vient des États-Unis qui nous dit Trump devrait être un roi, enfin, l'aspect royaliste, nous, ça nous fait rigoler. On voit qu'il y a une philosophie théorique derrière. Pourquoi ils crachent sur les Européens? Pourquoi ils n'aiment pas la démocratie? Tout ça est né de ces néo-réactionnaires, c'est fascinant.
Bon, passionnant, Jean-Marc Daniel.
Alors moi, j'ai choisi le livre de Julien Lopiseau dans la collection Paroles d'acteurs, chez l'éditeur Loeb. Donc, c'est un chef d'entreprise qui a appelé son livre Petit manuel d'intelligence stratégique, et au travers de 6 cas concrets, il essaie d'expliquer comment les chefs d'entreprise contemporains doivent répondre à certains problèmes qui n'existaient pas d'ailleurs avant. C'est-à-dire, il dit la cybersécurité, les problèmes de panne d'électricité, c'est des choses qu'on n'avait pas auparavant, et donc maintenant, il y a des choses auxquelles il faut répondre de façon tout à fait à la fois pratique et stratégique, dit-il. C'est-à-dire qu'il faut avoir réfléchi au préalable. Donc c'est assez concret, ça se lit bien, et c'est assez court en plus.
Ben moi, je suis un peu dans la même veine que vous, mon cher Jean-Marc, parce que alors vous allez me dire, des bouquins sur comment réduire les dépenses publiques, comment rendre l'État plus efficace, etc., etc. Bon, on en reçoit quand même énormément, mais j'ai bien aimé celui-là qui s'appelle « Pour un big banque des services publics. C'est écrit par Jean-Pierre Mongrand. Alors Jean-Pierre Mongrand, son quotidien, c'est justement d'aller conseiller la puissance publique. Il est consultant pour voir un petit peu comment on peut améliorer cette efficacité. Et donc, ce que j'ai bien aimé, bah, c'est qu'il ne nous dit pas une fois de plus ce qu'il faut faire, mais il essaye de nous expliquer comment on peut faire effectivement, à partir de cas concrets, eh bien, essayer d'améliorer la qualité et l'efficacité de nos services publics. Donc, je salue cette démarche. Donc c'est Christophe, c'est Jean-Pierre Christophe, n'importe quoi. Jean-Pierre Mongrand, donc c'est aux éditions Questions de Société. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.